Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, avez-vous remarqué que l'Évangile nous dit que notre Seigneur fut conduit au désert par l'Esprit Saint? Pourquoi l'Esprit Saint a-t-il conduit notre Seigneur au désert? Notre Seigneur savait qu'il aurait à affronter le diable, et c'est même pour cela qu'il y est allé. Il vient de commencer sa vie publique, il vient d'être baptisé par Saint Jean le Baptiste, il s'est humilié au milieu de la foule comme un simple pécheur parce qu'il a pris la place des pécheurs, et certes, Dieu le Père a proclamé la divinité de son Fils, et aussitôt notre Seigneur, au lieu de profiter de cette publication par Dieu le Père de sa divinité, au contraire, il est conduit par l'Esprit Saint et au fin fond du désert. Il passera 40 jours avec les bêtes sauvages, nous dit l'Évangile, car il y a les évangiles synoptiques qui se complètent là-dessus, et il passe le temps dans le jeûne, dans la prière. Pourquoi cela? Parce que notre Seigneur prend la tête de tous les chrétiens dans le combat. Les chrétiens doivent se battre. On ne gagne pas le ciel sans l'avoir mérité. Et ici-bas, on ne mérite le ciel que dans la lutte. Alors, notre Seigneur ne va pas se contenter de nous encourager. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire comme il l'avait fait pour Adam et Ève, les encourager du haut du ciel, leur donner la grâce et tous les secours qui sont nécessaires, bien entendu, et ça est une action très intérieure. Mais enfin, tout en agissant dans l'intérieur, il serait resté un petit peu loin de notre vue. Notre Seigneur ne reste pas loin de notre vue. Il veut se montrer, et non seulement il se montre, mais il veut être notre modèle, de façon à ce que nous n'ayons qu'à l'imiter pour être de bons chrétiens. Alors notre Seigneur va au désert, au milieu des bêtes sauvages, et il va affronter le démon, parce que c'est la condition de tout chrétien d'affronter le démon. Nous ne pouvons pas, je vous le disais, gagner notre ciel sans l'avoir mérité. Même les anges ont eu à mériter le ciel. Et c'est parce que certains anges, un tiers pense-t-on, un tiers des anges ont refusé la divinité, enfin refusé de se soumettre à Dieu Tout-Puissant, qu'ils ont été précipités en enfer. Et les autres ont accepté, et c'est pourquoi ils sont dans la vision éternelle de Dieu. Il y a donc eu une épreuve des anges, une épreuve pour faire ses preuves. On ne gagne pas le ciel comme cela, le ciel ne nous est pas dû, nous ne pouvons le gagner que dans la lutte. Et cette lutte, pour être efficace, doit être dans la grâce, dans la charité, dans l'amour de Dieu, et tout cela nous est donné par notre Seigneur. Alors notre Seigneur, pour nous montrer qu'il va nous donner la grâce dans la lutte de la vie présente, pour nous montrer qu'il va nous soutenir et que c'est avec lui que nous allons lutter, notre Seigneur est conduit au désert par le Saint-Esprit et nous n'avons qu'à le suivre. Car il est évident que nous n'observons pas cette scène, ce mystère de loin, mais nous le faisons nôtre et nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais comment le suivre? Nous allons voir cela. Un petit mot sur les pouvoirs du démon. On nous pose souvent la question, Monsieur l'abbé, c'est le démon qui a fait tomber Adam et Ève, mais qui a fait tomber le démon? Alors, le démon est tombé tout seul. Il n'y a pas besoin d'être poussé pour tomber. C'est la nature même d'une créature faillible, parce que toute créature est faillible, de pouvoir tomber. Adam et Ève sont tombés tout seuls, même si il y eut une suggestion du démon. Ils sont tombés tout seuls parce que sinon, ils n'auraient pas été punis si cela n'avait pas été de leur faute. Je pense que vous admettez que notre Seigneur, que Adam et Ève sont en faute, mais on a quelquefois du mal à admettre qu'on puisse tomber de soi-même sans suggestion extérieure. Regardez les anges. Les anges n'ont eu besoin de personne pour tomber parce que ils étaient face à la réalité de Dieu et ils n'ont pas eu besoin du démon, puisque ce sont les mauvais anges qui sont devenus des démons. Alors, le péché est notre fait. D'où vient le péché? Il vient de notre mauvaise volonté qui refuse de suivre Dieu. Dans nos conditions humaines, nous ne sommes pas comme les anges qui ne peuvent commettre qu'un péché d'orgueil et qui est nécessairement total et absolu, ou bien un acte de charité total et absolu. Adam et Ève également ne pouvaient commettre qu'un péché d'orgueil et non pas et rien d'autre parce qu'ils étaient dans la plénitude de la grâce de Dieu. Mais nous, depuis que l'ordre établi par Dieu a été complètement bouleversé par le péché originel, nous sommes tentés également par les choses extérieures. Ce qui fait que il y a deux types de péchés. Le péché de l'esprit, par lequel vraiment il y a une révolte contre Dieu. Ce péché de l'esprit peut être un péché de libéralisme, enfin nous verrons cela. Et puis il y a les péchés par lesquels nous sommes attirés par les créatures, attirés par tout ce qui se voit, et le pécheur quitte Dieu justement parce que il suit sa pente mauvaise. Que vient faire le démon là-dedans? Le démon ne peut pas entrer dans notre âme. Seul Dieu peut le faire. Dieu entre directement dans l'âme, sans la violer, parce que c'est lui qui l'a créée. Il entre par sa grâce, il entre par son amour, il entre par ses vertus, et les vertus infuses. Il entre par les dons du Saint-Esprit. Il habite dans l'âme, l'habitation des trois personnes divines dans l'âme. C'est un dogme de foi. Nous apprenons cela au catéchisme. Le baptême fait de nous les temples de Dieu. Le démon ne peut absolument rien de tout cela. Il ne peut pas entrer dans l'âme, il ne peut pas entrer dans la volonté, ni dans l'intelligence. Il peut seulement présenter des images, soit des images directement à la vue, et il y en a des exemples dans la vie des saints, soit des images à l'imagination, cela, oui, il le peut. À notre Seigneur, il va se présenter directement, non pas à l'imagination, parce que notre Seigneur étant Dieu, est absolument parfait, et il n'y a aucune possibilité que que le démon trouve en lui, le Fils de Dieu, que le démon trouve en lui une quelconque faille par laquelle entrer, alors qu'en nous, il les trouve. Donc le démon va se présenter uniquement à l'extérieur et il va essayer de tenter notre Seigneur Jésus-Christ, mais évidemment, notre Seigneur ne sera pas tenté en ce sens qu'il ne sera pas ébranlé, il ne sera pas ébranlé par cette tentation extérieure. Alors, le démon s'organise pour mieux lutter contre nous. Il trouve des complices, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important. Il trouve des complices et ces complices sont très concrets. Il y a certainement des hommes qui ont vendu leur âme au démon. On lit cela dans des récits de la vie des saints au Moyen-Âge. Ces cas sont exceptionnels au Moyen-Âge. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a des hommes qui ne s'en vantent pas et qui ont vendu leur âme au démon et qui, sur la terre, se trouvent des complices. Volkoff a raconté cela dans un livre qui s'appelle Le Complot et qui est assez éclairant sur ce sujet. Un livre à ne lire que par les adultes, parce que Volkov est très réaliste sur les vices que le démon utilise pour faire tomber. C'était une parenthèse. Donc, le démon se trouve des complices, et ses complices, à leur tour, trouvent des complices. Il est évident que lorsque vous avez quelqu'un qui regarde la télévision, prenons cet exemple, ou qui regarde Internet, qui va sur Internet, vous avez d'un côté celui qui regarde et qui utilise, qui est blessé, et vous avez de l'autre côté celui qui a fait l'émission de télévision ou qui a proposé l'information ou la désinformation sur Internet, lui aussi est blessé par le péché originel. Et alors le démon, très intelligemment, va essayer d'utiliser ces hommes qui ont de l'influence par des films. Vous avez un homme qui fait un film et qui va avoir de l'influence sur des dizaines de milliers de personnes. Vous avez une personne qui donne des informations sur Internet et elle a de l'influence sur des milliers et des milliers de personnes. Alors le démon va les utiliser. Et c'est pourquoi il n'est pas étonnant que les médias, enfin ce qu'on appelle les médias, c'est-à-dire les moyens d'information sociale, soient aujourd'hui entre les mains du démon. Parce que le démon est intelligent et il a eu raison, pour lui, de son point de vue, de prendre ces moyens qui sont si efficaces. C'est pourquoi il faut les fuir, parce que nous savons que le démon est particulièrement caché dans ces moyens-là. Comment allons-nous résister aux démons? Notre Seigneur nous le montre. Tout d'abord, nous fuyons dans le désert, c'est-à-dire que nous passons du temps avec Dieu. C'est la contemplation. Pendant 40 jours, il est évident que notre Seigneur a été très en paix avec son Père. Je veux dire en paix, c'est-à-dire il n'a pas eu à subir les assauts du démon. Le démon n'est venu qu'à la fin. Il a eu bien sûr les difficultés de la faim, puisqu'il ne mangeait pas. Mais le jeûne libère, le jeûne allège le corps et par conséquent libère l'âme. Et notre Seigneur était en contemplation de Dieu, probablement également en pensait-il à toute la, même certainement pensait-il à son œuvre sur la terre et à tous les fruits qu'elle porterait et à toutes les grâces qu'il devait nous donner. Il pensait également, ça c'est la théologie qui nous l'enseigne, il pensait également à chacun d'entre nous, parce que notre Seigneur, je ferai peut-être un autre sermon là-dessus une autre fois, notre Seigneur avait une connaissance parfaite de toute sa mission et de toutes les suites de sa mission, et par conséquent, notre Seigneur nous connaissait, chacun d'entre nous, il pensait à nous, chacun d'entre nous, et il connaissait chacune des situations dans lesquelles il nous donnerait des grâces pour nous attirer à lui. Donc soyez certains, mes bien chers frères, que notre Seigneur au désert pensait à chacun d'entre vous, il pensait au carême que vous commencez tout de suite, il pensait aux difficultés que vous affrontez, il pensait à la trahison des clercs, c'est-à-dire des évêques dans l'Église moderne et dans ceux qui rejoignent l'Église moderne, il pensait à ce désarroi dans lequel vous pourriez peut-être vous trouver en voyant que les successeurs de Monseigneur Lefebvre trahissent eux aussi. Soyez absolument certains que notre Seigneur a vécu ce jeûne, a voulu ce jeûne sous l'influence du Saint-Esprit pour vous gagner les grâces, et non seulement vous les gagner, mais il savait exactement quelles grâces il vous donnerait. Les moyens de suivre, donc après la contemplation, le jeûne, et puis le démon nous indique également comment il faut résister. Il commence en proposant à notre Seigneur des pains, c'est-à-dire il commence par la sensualité. Il ne propose pas de la gourmandise, il est trop malin pour cela, il propose quelque chose de tout à fait légitime, à savoir de se nourrir après avoir jeûné. ce qui est parfaitement légitime. Mais ce qui ne l'est pas, c'est de recevoir cette nourriture des mains du démon, et c'est pourquoi notre Seigneur le met à la porte, et il lui dit d'ailleurs, cette nourriture est secondaire, l'homme se nourrit d'abord de la parole de Dieu. Alors, le démon, voyant qu'il n'a pas réussi, va tenter notre Seigneur par l'orgueil. Il le mène en haut du temple, et vous remarquerez au passage que notre Seigneur se laisse prendre dans les mains du démon. Le démon va le porter du désert, il y a plusieurs dizaines de kilomètres, du désert où il était, le désert qui était juste au-dessus du Jourdain, jusqu'à Jérusalem, au pinacle du temple. Et là, au pinacle du temple, il lui dit « Jette-toi en bas, car il est écrit dans le psaume 90, le psaume des complis, il donnera ordre à ses anges, Dieu donnera ordre à ses anges de te porter dans leurs mains. » Notre Seigneur, évidemment, refuse, ce serait de la pure gloriole, ce serait de l'orgueil. Et voyant qu'il a échoué, le démon essaie la troisième manière, et qui sont les biens de ce monde. Il le met sur une haute montagne, là encore il l'a transporté, notre Seigneur s'est laissé transporter, et donc ne soyez pas surpris, mes bien chers frères, que le démon approche près de vous dans votre vie ici-bas. Cela ne vous salit pas, notre Seigneur n'a pas été sali parce que le démon l'a pris dans ses mains. De même, vous n'êtes pas sali lorsque le démon approche de vous. On est sali uniquement lorsque l'on consent au démon. C'est cela qui salit. Et que vous soyez dans un monde plein de pourriture, que la pourriture du péché approche près de vous, cela est douloureux, mais cela ne salit pas. Alors le démon le transporte sur une haute montagne et il lui propose tous les royaumes de la terre. Notre Seigneur refuse là encore. Vous avez là la triple concupiscence que le démon connaît bien et qu'il a cherché à utiliser en notre Seigneur, car il ne sait pas encore que Jésus est Dieu. Il voit bien que c'est un homme éminent, mais il cherche à le tester pour savoir s'il est Dieu. Son test, il repartira bredouille, puisque notre Seigneur lui répond de telle manière que le démon n'apprend rien. Si ce n'est qu'il a affaire à un homme suréminent, mais cela, il le savait déjà. Alors, il y a une triple faiblesse en nous, la faiblesse de la chair, la faiblesse de l'orgueil de la vie, et la faiblesse de la concupiscence des yeux, par lesquels nous désirons les biens extérieurs. À ces trois faiblesses, nous répondons à la faiblesse de la chair par le jeûne, à la faiblesse de l'orgueil de la vie par l'humilité, laquelle se manifeste principalement dans la prière, et à la faiblesse de la chasteté, à la faiblesse de l'esprit, nous répondons par l'humilité qui se manifeste dans la prière, et à la faiblesse de la concupiscence des yeux, nous répondons par la pauvreté. Ce sont les trois choses à mettre en œuvre, les trois grands moyens à mettre en œuvre. Moyens que notre Seigneur va mettre en œuvre toute sa vie. Il ne fait que commencer et il achèvera sur la croix avec une pauvreté totale, puisqu'il sera totalement dépouillé même de ses vêtements. Il donnera même sa mère à Saint Jean, une humilité totale, puisqu'il remet son âme entre les mains de Dieu le Père, et évidemment une chasteté totale, cela va de soi. Notre Seigneur nous montre que, dès le début de sa vie, nous montons vers le calvaire avec lui en nous dépouillant, et nous allons dominer ce monde mauvais comme lui-même a dominé le démon, et c'est ainsi que, avec lui, nous gagnerons la gloire de Dieu. Effectivement, dès que le démon est parti, les anges servent notre Seigneur et il est absolument certain que les anges seront également avec nous pour le triomphe. Vous allez me dire, pourquoi ne sont-ils pas avec nous dès ici-bas de façon visible? Si, ils le sont, vous avez ne serait-ce que l'ange gardien et vous avez le prince des armées célestes qui lutte contre Saint-Michel-Archange. Mais ce n'est pas l'objet de ce sermon qui n'a pas pour but de vous montrer l'aide que les anges vous apportent, mais de vous montrer très concrètement que notre Seigneur nous a donné, nous a décrit ce qu'est la vie chrétienne, il nous a donné l'exemple de la vie chrétienne. Cette vie chrétienne est dans la lutte, et c'est par la lutte que nous gagnons des mérites, et c'est en gagnant des mérites que nous gagnons notre ciel et que nous triompherons avec notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit que je vous dirais un petit mot sur le libéralisme. Le libéralisme est une invention du démon pour qui tente l'orgueil, pour les gens qui sont sensibles à cela, les gens qui sont dans des positions un petit peu élevées, un petit peu notables, comme le sont les bons chrétiens, comme le sont les traditionalistes. Et le démon les tente en leur proposant une puissance sur le monde, en leur proposant un pouvoir sur le monde, à condition qu'ils lâchent plus ou moins les principes, qu'ils lâchent plus ou moins la fidélité à Dieu. Et Mgr Lefebvre nous disait que nous ne devons pas seulement avoir la foi en notre Seigneur, mais également la foi en les moyens que nous donne notre Seigneur. Je conclus donc, demandez à la Sainte Vierge qu'elle elle était présente au pied de la croix. Elle vous donnera cet esprit et cette pratique, pas seulement l'esprit, mais également la pratique de la chasteté, du jeûne et de l'obéissance et de l'humilité. Je prie pour vous durant cette messe, que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.